Et salut à toutes et salut à tous, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Game Lovers. Game Lovers, comme vous le savez, c'est le podcast corse des amoureux de jeux vidéo, et c'est notre premier épisode de la saison numéro 2. Et oui, ça fait déjà un an qu'on est dans vos oreilles, un an qu'on a réussi, qu'on est parvenu à lancer notre petit podcast Noustral. Et on en est content, enfin moi j'en suis très content. On a du monde aujourd'hui qui va intervenir avec nous. D'ailleurs, je vous les affiche, mais vous les auditeurs, vous savez pas encore, parce que je m'en vais vous les introduire en musique comme à l'accoutumée. Je vous rappelle simplement qu'il y a en ce moment, pour une semaine encore, deux cadeaux à gagner sur la page Instagram de Game Lovers 2B. Vous avez la collection BioShock à gagner en jeu vidéo PS4 compatible PS5, et vous avez également un tatouage autour du gaming à gagner chez Pascal Aquaviva All's Tattoo à la Citadelle.
C'est chouette ça aussi.
Ah, c'est super chouette. Et donc pour participer, voilà, vous allez sur notre compte Instagram GameLovers2B et vous avez toutes les modalités de participation. Pour cette nouvelle année, pour cette saison 2, on a décidé de se concentrer désormais sur un jeu par émission. C'est ce que font d'autres émissions. On s'empêchera pas de revenir à un thème par émission, mais c'est vrai que souvent on était un peu frustrés parce que c'est parfois un peu vaste, et voilà. Donc un jeu, ça nous permettra de rentrer peut-être plus en profondeur dans les sujets qu'on souhaite aborder, mais voilà, de temps en temps, il y aura peut-être encore quelques petits sujets thématiques. À ma gauche, donc, il y a Jonathan, un habitué désormais. Et Jonathan, je lui ai choisi ceci, mesdames et messieurs, pour aujourd'hui.
Vas-y.
Il faudra bien écouter les paroles, surtout le début. C'est une chanson intitulée...
Serge Reggiani.
Jean Ferrat. Je ne sais ce qui me possède. C'est parce que... Qu'est-ce qui t'habite et qui t'obsède?
Ce qui m'habite et qui m'obsède.
Voilà, c'était du Jean Ferrat, et ça s'appelait Les Poètes, et ça lui va, et je trouve que ça te va tellement bien.
J'adore de plus en plus tes introductions.
Elles te plaisent, les introductions. Tu les as eues, Les Poètes, c'est bon, Fredo qui est à Ajaccio?
J'ai pas eu, mais je connais la chanson. Mais je connais la chanson.
T'as pas eu droit au son, à la musique. Écoute, je ne sais plus quoi faire pour que tu entendes, mais...
Écoute, c'est pas grave.
Voilà. Mais alors, je vais t'introduire en musique, alors peut-être que tu l'entendras pas. Mais j'espère que oui, quand même. J'espère que oui.
Tu me demandes de réagir sur quelque chose que j'entends pas.
Que tu n'entends pas, mais je vais quand même t'en parler. Je vais quand même t'en parler. Acteur Studio, voilà. Acteur Studio. C'était ça pour toi, mon Fredo. Et si tu la connais pas. Tu n'entends pas, j'imagine.
Ah, excellent, bien vu.
C'est un gelato al limone. De notre ami Paolo Conte, c'est ça?
Paolo Conte.
Un gelato al limone, parce que nous avons mangé de la glace, Frédéric et moi, pour ne rien vous cacher.
Ouais.
Alors, c'était pas un gelato al limone, c'était pas au citron, mais c'était... Il peut t'en parler, Fred. Tu veux dire ce que c'était?
C'était à la praline, ouais. C'était très bon.
Et un sorbet chocolat de tous les diables qu'on s'est mangé à Ajaccio.
Un sorbet chocolat.
Alors, si vous en avez jamais mangé, enfin, pour moi, c'était une première, mais...
C'est le glacier Neri Ajaccio. Voilà, ouais. Si un jour vous venez, voilà.
C'est Neri Ajaccio qui fait ça. Un sorbet au chocolat, donc sans lait.
Ah bah oui, un sorbet,
c'est... Pur chocolat, incroyable. Incroyable.
Une tuerie complète.
Et donc moi, je vais m'introduire avec ceci, mesdames et messieurs. Je sais que ça va plaire à John aussi. En fait, c'est un petit running gag par rapport à ce que j'ai montré à ces messieurs dans la semaine. C'est ça, Jonathan, tu vas voir. Et je suis désolé pour Fred qui ne l'a pas.
Oui.
Voilà. Parce qu'en fait, depuis que je leur ai montré les photos de moi avec Monsieur le Maire, ils n'arrêtent pas de dire qu'on se tourne autour, qu'on se renifle l'arrière-train. Donc c'est pour un flirt avec toi. Je ferai n'importe quoi. Donc non, je ne ferai pas n'importe quoi pour un flirt avec Monsieur le Maire, mais on s'est bien entendu. Voilà, je n'en déplaise aux mauvaises langues.
En attendant le remaniement de la mairie, d'ailleurs, pour voir un maximum. On
a, eh oui, écoute, les remaniements sont de mise. Alors après tout.
Ouais, la rentrée, hein, généralement, ça se fait en septembre.
Voilà, ça se fait à la rentrée. Là, ils ont remanié quand même avant l'été, parce qu'il y a un budget à faire passer. Et je pense qu'ils vont nous cramer complètement, Elisabeth Borne. Mais ceci est un autre sujet. Ensuite, ce que je voulais partager avec vous, on va pas y arriver, voilà, c'est ici. C'est donc le sujet du jour, mesdames et messieurs, puisque l'on va parler Final Fantasy XVI, qu'on a décidé de rebaptiser Fatal Fantasy XVI, parce qu'on se demande si la licence n'a pas subi une fatalité avec ce dernier épisode canonique. En tout cas, on a des choses à en dire, on va procéder comme suit. On va parler quand même du positif, hein, parce qu'il y a quand même du positif à sortir de tout ça. On va parler aussi du négatif, parce que malheureusement, ça risque d'être le cœur de notre émission, parce qu'il y en a malheureusement aussi et beaucoup, à notre sens. Et on va enfin parler de la réaction de l'industrie autour de ce jeu qui, ben, je dis pas pour une fois, mais en tout cas qui nous a paru très 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 éloigné de ce qu'en ont pensé les joueurs. Et disons que du côté des joueurs, ça a grincé des dents. Est-ce que ça vous va, messieurs, comme programme?
Très bien.
Ça vous va? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On commence tout de suite par les points positifs. Qui veut se lancer? Pas tous en même temps.
Allez.
Pas tous en même temps.
Le chien est très bien. Voilà, Talgore.
Réveille-toi, John nous dit. Qui est-ce qui nous dit ça?
Chez toi, Toine. Bienvenue chez toi, Toine.
Ne nous oubliez pas de follow, d'ailleurs, hein, ça ne coûte rien. Vous êtes les bienvenus. Et alors, chez toi, Toine te propose de te réveiller. Alors, réveille-toi donc.
Je vais l'écouter et tenter d'apporter.
Et parle-nous du positif de FF16.
Des notes positives.
S'il y en a.
Alors, avant de dire quoi que ce soit, je le dis d'une manière le plus neutre possible, parce que en étant fan de la licence depuis très longtemps, évidemment, puisque j'ai été nourri au RPG par les Final Fantasy et ensuite sur d'autres jeux, mais le jeu qui a introduit cette passion avec ce système de jeu-là, c'est bien les Final Fantasy. Et je vais essayer... Alors, déçu du jeu, mais on peut tirer quelques notes positives. La trame historique, hein, puisque les bases des RPG, c'est bien la narration qui propose à ce genre de jeu de plonger telle une série télévisée ou un film fantasy héroïque, pardon. Et on peut dire que même si il s'inspire fortement d'une série bien connue, Game of Thrones, pour pas les nommer.
Tu vois, ça arrive dans les points négatifs, ça, c'est noté quelque part.
On peut dire que ils se sont inspirés de quelque chose où on peut s'inspirer. Le charisme de certains personnages est à noter en point positif selon moi. Certains personnages, pas tous, mais quand même, il y a...
Tu penses à Sid ?
Je pense au personnage, à Clive.
Clive. Je pense au chien, moi, par contre.
Oui.
Talgore ou Targol ou je sais
pas. C'est ça, Talgore.
Talgore en français, mais je sais qu'il a un autre nom en...
Titan est très bien.
Titan est pas mal.
Ah oui.
Plutôt bien travaillé, je suis d'accord.
Exactement. Et d'autres personnages qui peuvent... Enfin, dans la saga, on a connu du bon et du pas bon. On reste à niveau égal, je pense.
Par rapport au casting du,
oui,
du
oui,
16.
Oui, sur l'ensemble, il y a...
C'est assez inégal, je trouve. Hein.
Ouais, mais tout.
Enfin, je trouve qu'ils sont pas assez creusés. J'aime bien le chara design et tout, leur charisme et tout, mais.
Tiens, si je veux te donner un exemple, le Final Fantasy IX ou même le 8, c'était très inégal aussi.
Le 8, je suis assez d'accord, oui. Le 9, je suis moins d'accord. Mais, enfin, si c'est vrai, dans le 9, t'en retiens 3-4.
Ils m'ont moins importé, mais, donc, peut-être, je manque d'objectivité là-dessus. Mais en gros,
ouais, c'est vrai. Ok. Je suis d'accord.
Selon.
Mais n'empêche que je trouve qu'ils avaient tous une backstory, tu vois.
Oui.
Ils avaient tous des raisons qui les motivaient. Steiner, tu t'en rappelles quand même, le chevalier du neuf. Tu te rappelles beaucoup de Bibi. et de ses motivations et de son questionnement sur ce que c'est qu'être vivant, machin. Jidan aussi.
C'était même, enfin, c'était même un des points forts du neuf. Hein,
voilà, je trouve que quand même, ils avaient tous une backstory et ce qu'il a vraiment est pauvre, quoi. Titan, on sait pas du tout d'où il vient, on sait pas du tout quelles sont ses motivations.
Il faut traiter l'histoire même du jeu.
Oui, ben on peut
au-delà même au-delà même moi je parle d'empathie que l'on peut avoir sur l'écriture d'un personnage. C'est sûr que si on va en profondeur chercher
Du coup Titan, moi je suis un peu peiné de ce qui lui arrive, c'est vrai, mais pas suffisamment parce qu'on le connaît pas, tu vois, et c'est au fond c'est pas ce qui l'anime, ce gars-là. Allez, si un peu sa romance avec un autre personnage.
Oui, mais est-ce qu'un jeu, tu dois amener tous les personnages
Je trouve que, enfin, en général, ils étaient plus travaillés. Mais d'accord, pour le casting, il y a quand même quelques personnages dont on se souvient plutôt pas mal.
Voilà, moi, enfin, c'est ce que je pense. Donc, ça, c'est pour la note positive. Après, ça s'arrête un peu là. On peut basculer sur le gameplay. Le gameplay, on a quelque chose de bien travaillé, même si c'est copié sur, pour ceux qui connaissent, hein, Devil May Cry. Et d'ailleurs, le chef design du gameplay en termes de combat, c'est celui qui a fait, qui était chez Capcom avant.
Devil May Cry 5, hein,
tout à fait. Ils ont débusqué le responsable des combats de Devil May Cry et de Dragon's Dogma, je crois qu'il avait fait aussi.
Donc, ils ont abandonné.
Il était très bien d'ailleurs.
Ils ont abandonné le tour par tour. Pour vraiment avoir un certain dynamisme dans les combats. Donc ça, c'est plus ou moins positif. Mais on peut le traiter en négatif puisqu'il est ultra aidé. Donc on perd de la compétitivité. On peut jouer les yeux fermés, hein, à ce jeu-là. Hein.
Non, n'exagère pas quand même.
Sur les combats, si tu mets toutes les aides,
quand même,
tu joues les yeux fermés.
Si tu mets toutes les aides, tu as raison.
Oui, mais il te les propose, forcément que tu as amené.
Oui, moi j'en ai mis aucune. Hormis le su, un anneau qui permet au chien d'interagir tout seul sans qu'on ait à lui donner d'ordre, mais. Restons sur le positif.
Allez. Okay, les combats.
Système de combat bien fichu.
Le charisme des personnages. Les graphismes qui sont bien réalisés, même en termes de. Hors personnage, sur le paysage, le plan large. Les architectures de châteaux, de tout ce qui gère l'environnement du jeu en lui-même, je trouve que c'est quand même un joli jeu.
Ah, graphiquement, sur les panoramas, les vistas, etc., je trouve que c'est un joli jeu. Ouais. Sur l'ambiance et tout, je te rejoins. Les cinématiques aussi, qui en mettent plein la figure, faut le dire. Celles qui sont réalisées sans le moteur du jeu sont bien meilleures quand même, mais ça va. Qu'est-ce qu'il nous dit, Incoming Call? Il nous dit, ah oui, c'est étrange, on a l'impression que John se retient un peu, qu'il intériorise une rage de vivre à la radio.
Non, mais c'est ça.
C'est Romain qui nous dit ça. Mais...
C'est ça, parce que j'essaie de mettre du positif, alors que je ne veux mettre que du négatif.
Le négatif surpasse le positif, ça c'est à peu près sûr.
T'imagines, t'es en train d'expliquer que la femme elle est jolie alors qu'elle est pas jolie. C'est compliqué.
Comment ça, quelle femme est jolie?
Non, mais dans la vie de tous les jours.
Ah d'accord, c'était une allégorie.
C'est ça.
C'est une belle femme ou pas alors Final Fantasy XVI, selon toi?
Tu peux être que déçu. Hein. Tu la vois bien habillée en soirée, le matin tu te lèves, ça te tient mal à la tête.
Elle est artificielle?
C'est ça.
C'est le top modèle de 10h du matin, Final Fantasy XVI, définitive. Écoute, why not? Qu'est-ce qu'il nous dit? Fais-nous une Jean-Pierre Coff, lâche-toi. Voilà ce que te propose chez toi, Toine.
C'est de la merde. C'est de la merde.
C'est de la merde. Non.
Bon, moi, je suis positif quand même.
Allez, c'est parti, Fredo. Justement, on t'écoute sur le positif. Est-ce qu'on fait un bref rappel? Alors, piqûre de rappel quand même de ce que c'est Final Fantasy. Est-ce que c'est la peine, vous croyez, ou pas du tout?
Oui.
Un petit résumé, voilà. Qu'est-ce que tu dis? S'il y en a qui n'ont pas joué aux jeux vidéo depuis 30 ans?
Oh. Non, mais.
Plus que ça, même 35 ans, je crois, FF7. Voilà. Donc, t'imagines, la série, elle doit avoir.
Mais FF7, il est de 97.
Ouais. Alors, la saga Final Fantasy, on va le dire pour la faire courte, c'est une série emblématique du jeu vidéo, de jeux de rôle, hein, qu'on appelle les RPG, les Role Playing Game, et JRPG pour japonais, développé et édité par Square Enix, anciennement Squaresoft. La série a été créée par Hironobu Sakaguchi et a débuté en 1987 avec le premier jeu intitulé Final Fantasy. Depuis lors, la franchise a connu un immense succès et est devenue l'une des séries de jeux vidéo les plus populaires et les plus influentes de tous les temps. Chaque jeu de la série Final Fantasy se déroule dans un monde unique avec son propre récit, ses personnages et ses mécaniques de jeu, mais plusieurs éléments communs se retrouvent dans la plupart des épisodes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous pouvez faire les épisodes dans n'importe quel ordre, oui, bien que les numéros se suivent, chaque intrigue et chaque univers est indépendant du jeu précédent. Ces éléments incluent généralement la présence de cristaux, pour ce qui concerne les motifs communs que vous allez retrouver dans ces jeux-là, la lutte entre les forces du bien et du mal, un groupe de héros qui doit sauver le monde, ainsi que des combats au tour par tour ou bien en temps réel, puisque là justement on va vers une petite mutation ces dernières années, et des mogs et des chocobos en général, un ingénieur qui s'appelle Cid et deux trois autres trucs que vous retrouverez dans la plupart des jeux. Parmi les plus notables, on peut citer donc Final Fantasy VII ou Final Fantasy X, je pense pour ceux qui ont le plus marqué leur époque. On en est donc au 16e épisode. Et oui, la musique de Sephiroth nous dit chez toi, Toine. Oui. Alors, voyez, il connaît pas du tout la série, mais c'est tellement iconique qu'il connaît le morceau. Mais oui, oui.
La musique de Sephiroth. Mais c'est la force d'un jeu, ça.
Particulièrement marquante. Donc, je suis désolé, je t'ai interrompu, Fred, mais ça nous a permis de faire un petit point global.
Non, pas du tout.
Sur la saga. Alors, vas-y. Donc, tu disais ton positif à toi.
Moi, je trouve qu'il y a une très belle direction artistique sur le jeu. Mm-hmm. Aussi bien au niveau des personnages que des décors. On ressent bien le côté médiéval, un peu société qui s'écroule. Et moi, je trouve que c'était bien fait. Ouais.
D'accord avec toi. Sur les personnages, tu as le même point
de vue. Moi, je trouve que le look des personnages n'est pas trop extravagant pour une fois sur les Final Fantasy. On a tendance toujours à mettre des franfreluches et des trucs un peu bizarres. Là, ça reste bien cadré, ça reste chevalier. Voilà, c'est très très bien.
Dans le 15, le look un peu garçon branché dans le vent et tout, ça fonctionnait pas mal, je trouve, hein.
J'ai dit que je parlais jamais du 15, donc pour moi, d'accord, il n'existe pas.
Ok, très bien. Non, mais je t'en prie, alors qu'on est à tu peux.
Après, je trouve qu'il y a des personnages, des monstres et des ennemis qu'on affronte qui sont vraiment bien réussis. Je pense au chevalier dragon, par exemple.
Oui.
La première fois qu'on les voit, moi, je suis resté un peu vraiment épaté.
C'est vrai, il y a des premières rencontres qui sont marquantes. Je suis d'accord avec toi, le chevalier dragon, aussi bien dans le tuto que quand on en recroise un plus tard, ça fonctionne bien.
Il y a
bien,
la mise en scène qui est. Il y a beaucoup d'efforts de mise en scène. On voit qu'ils ont essayé de faire de la mise en scène. Après, c'est réussi, c'est un peu maladroit quelquefois, mais ils ont essayé. On peut quand même dire qu'il y a eu de l'effort là-dessus.
Moi, je voudrais revenir sur la mise en scène, peut-être un petit peu plus tard. Mais je trouve que les jeux vidéo qui commencent à singer le cinéma, malheureusement, il y a un truc qui fonctionne pas parce que...
Voilà, c'est ça. C'est que quelquefois, ça fait un peu creux, mais il y a quand même des efforts. Ils ont essayé de mettre en scène les personnages, de construire des relations qui sont un peu bancales quelquefois. Il y a eu des efforts.
Non, c'est vrai qu'il y a un gros effort de mise en scène, mais je trouve que malheureusement, souvent, ça sonne faux. Il y a très peu de jeux qui y arrivent. Quoi. Je veux dire, God of War y arrive très bien, The Last of Us y arrive très très bien aussi. Mais là, dans le fond, t'as jamais ce que t'as au cinéma en fait. T'as jamais de vie derrière. T'as jamais d'ambiance. T'as jamais de figurant. Là, c'est toujours un truc très intime. C'est bizarre. On dirait que les 5-10 personnages concernés sont les seuls à se balader dans ce monde-là.
Et puis le fait qu'on dirige qu'un seul personnage, ça fait que les autres, on s'attache pas vraiment. On n'a pas d'affinité avec.
C'est un choix qui était un peu souligné dès le départ et qui.
C'est tellement focalisé sur le héros que le reste n'existe pas à côté.
Ou au contraire, c'est que tu as l'impression que tout est au.
Tout tourne autour de lui, en fait.
Voilà, tout tourne autour de lui. Ils sont pas des pièces rapportées, mais ils sont là pour le faire briller. Et puis,
C'est tout le monde lui demande service à lui. Il y a que lui qui peut faire quelque chose, quoi. Donc, c'est bizarre.
Et notamment dans les combats, puisque tu.
Voilà, notamment dans les combats. Moi, j'ai l'impression de jouer à un MMORPG, mais solo. C'est-à-dire qu'on a des quêtes, on est tout seul face à un monde qui nous attend, qui est là, qui ne vit pas, qui est.
mais un monde pas rempli, c'est le paradoxe. C'est
là. Arrêtez, on est dans le positif, s'il vous plaît, retenez-vous, je vous assure qu'il y aura un énorme volet. D'ailleurs,
C'est difficile parce que dès qu'on dit un point positif, il y a tout de suite le.
Il y a le contrepoint, je suis assez d'accord. Hein.
L'opposition de face.
Après, les décors, oui, il y a des beaux décors, il y a la musique qui est sympa à écouter. Même s'il n'y a pas de thème très marquant.
C'est vrai que la bande son, je retiens 2-3 thèmes, notamment le thème de combat. Tiens, d'ailleurs. Et non, allez, je vais attendre le point négatif. Mais le thème de combat.
Il n'y a pas de thème vraiment marquant, tu vois. Il n'y a pas un thème qu'on va retenir.
Alors, si.
Par exemple, voilà, tu vois.
Vous savez quoi? Je le fais écouter au chat, le thème de combat. Tu me diras si toi tu l'entends, Fred, je ne suis pas certain, mais voilà, je le fais quand même écouter au live.
Je l'ai trop entendu.
Pardon, je l'ai mis un peu fort.
Eh. Hey. Je croyais qu'il
c'est
chaud dans la cuisine.
C'est parti très fort. Voilà, pour le faire écouter au chat. Merci chez toi, Toine. Alors, je vous le fais écouter pour une raison précise, c'est que tout à l'heure, je vous ferai écouter un morceau. Un morceau d'un thème de combat, d'un autre épisode, qui fait, dont il semble être complètement pompé.
Et tu vois, c'est ça, c'est que il y a une belle musique, mais de suite il y a un côté négatif à ça. Donc c'est dur de trouver du point positif vraiment.
Oui, ben la technique son, je fais ce que je peux, Romain. Je t'assure que je jongle entre trop de contraintes là. Si vous étiez tous là en présence aussi, ça me faciliterait les choses. Hein, c'est comme ça.
Ouais, parce que bon, je me sens seul moi chez Max.
Voilà, c'est hein. Et pourtant je te traite bien. Hein.
Vous êtes mignons tous les deux comme ça.
Merci. Donc la musique, oui, quelques thèmes un peu. Ah, si, certains spectaculaires. Il y a le thème de Shiva qui est quand même sympa.
Tu vas pas les retenir si tu veux. Tu vois, il y a pas un thème vraiment flamboyant qui te revient en tête.
Je t'ai dit, hormis le
réécouter, par exemple.
Hormis le thème de combat et le thème de Shiva que j'ai beaucoup aimé. Je sais pas si vous vous rappelez cette au tout début, hein, cette bataille entre Shiva et Titan. Il y a un thème que je trouve très très joli. Hein, voilà, si vous voulez l'écouter, vous allez chercher ça. Mais c'est très joli, c'est très beau.
Mais j'en retiens, quoi.
Sur le côté Game of Thrones, c'est mûr. Enfin, on a entendu dire que c'était une écriture très mature, un environnement très, enfin, qu'on s'éloignait, on va dire, de la fable habituelle, le bien contre le mal. Enfin, moi, je trouve que malheureusement, la deuxième partie du jeu sombre un peu là-dedans, mais
complètement,
qu'on avait un monde un peu plus nuancé, un peu plus adulte, un peu plus, je dis pas viril,
mais cucu, moi, tu vois, j'ai trouvé ça très
Sur la fin, je suis tout à fait d'accord avec toi.
Mais même pour ce héros qui est torturé, mais finalement qui ne l'est pas, qui tue son frère, mais qui ne le tue pas, qui. En fait, il.
Ah oui, on vous a pas averti, nous allons spoiler. Hein. On va quand même vous donner notre conseil, mais on va spoiler.
On a un héros qui se lamente pendant une heure, pendant une dizaine d'heures, et puis finalement pour rien, quoi. Tu vois, c'est.
Bon, il a le droit, le héros, de pas savoir, même si nous, la ficelle, elle est grosse, on la voit.
Ah, mais du coup, comme on voit la ficelle, on n'y croit pas, tu vois.
Ouais. Oui, c'est difficile de passer à côté. Je pense que tout le monde l'a vu, hein, effectivement. Mais comme
voilà,
mais
c'est difficile d'avoir de l'empathie pour le héros si on sait déjà à l'avance que c'est du bidon, quoi.
Bon, et l'univers façon Game of Thrones, on va dire, ou Game of Thrones like, ou je sais pas comment il faut le dire.
Non, c'est un copier. C'est même pas une inspiration.
Niveau chiffre, ça a donné quoi? Ça a donné 3 millions de ventes. Alors 3
ils
millions
sont
de ventes.
À 3 millions.
Alors ils étaient. Ce qu'on a annoncé, c'est 3 millions de ventes en boutique. 3 millions de jeux ont été livrés, 3 millions de copies ont été vendues, ont été livrées aux boutiques. Probablement que si tu ajoutes à ça les copies digitales, je pense qu'ils vont très vite frôler les 5 millions, ce qui est un bon démarrage, d'autant que c'est une exclusivité PlayStation 5, que le parc de consoles n'est pas encore tout à fait installé. Je pense qu'il s'en est vendu combien, 40 millions peut-être de PS5.
Ouais, on doit être à 40 millions maintenant.
Voilà, donc ça fait malgré tout, quoi, un possesseur sur 8, peut-être qu'il y aura une copie d'FF16 au démarrage, ce qui est pas mal du tout.
Il y a une chose, c'est que Square Enix ne communique plus sur les ventes. Hein.
Non, pour l'instant, ils communiquent plus d'amour, pas. Hein. Ouais, mais tu verras que quand ils atteindront les 5, à mon avis, ça va tarder, ils diront. Non, mais c'est pareil, puis ça va être c'est un million seller quand même, c'est un jeu qui se vend à des millions d'exemplaires.
Ouais, ça, c'était la base.
C'est très bien, et en plus de ça, il va continuer à se vendre sur le temps long, comme avait fait FF15. Pas au même prix, hein, mais il ressortira avec, avec une édition spéciale.
En platinium ou en
platinium ou avec un DLC.
Éventuellement un DLC, voilà.
Donc,
et puis un DLC qui va sortir. Voilà,
mais bon, les jeunes, pas tous les jeunes ne connaissent la saga. Il y en a qui se jettent dessus et ils apprécient le jeu comme il est présenté maintenant et qu'ils n'ont pas de point de repère sur les origines.
Mais ça rejoint un peu la question que pose Romain. Il nous demande si les gens plus jeunes et qui découvrent la série avec, est-ce qu'ils l'ont plus aimé que ceux qui connaissent la série?
Ah oui.
C'est vrai que c'est peut-être possible. Bah, c'est difficile de savoir hein, en vrai. Si...
Bah, c'est eux qui ont fait la plupart des ventes. Hein.
Bah,
sur eux, pardon. Hein. C'est sur ces.
On est sûr de ça?
Bah, ça avait été annoncé, pas officiel, hein. Mais il y avait une explication qui était donnée dans ce sens-là.
De toute façon, plus t'as fait de Final Fantasy, plus t'es ronchon et plus t'es méfiant par rapport à ce qui arrive, parce qu'on connaît aussi l'historique et.
Mais tu fais une saga,
Enfin, moi, je l'ai pris comme un jeu vraiment normal. Tu vois, j'ai pas essayé de le raccrocher aux autres Final Fantasy.
Non, mais t'avais quand même des réticences par rapport au passé récent de Square. Je veux dire, on a connu l'épisode, l'épisode 13, 14, 15 quand même.
Il y a un passif qui était gros quand même.
C'est ce que je te dis, c'est que voilà, si toi tu connais déjà la série, tu y vas peut-être à pas plus mesurer que si t'es complètement.
C'est dommage, c'était un jeu que j'aurais bien aimé, tu vois.
Ouais.
Mais c'est difficile, quoi. À la fin, c'était le calvaire, quoi.
Je reprendrai cette citation. Je crois que c'était dans Fin du Game qu'il l'avait dit au sujet de Nier Automata, si je te dis pas de bêtises. Et pour moi, ça vaut pour FF16. C'est que je souhaite à tout le monde de l'avoir fait, mais je souhaite à personne de le faire.
Voilà. Donc, ouais, il y a un peu de ça.
Voilà, ce serait presque, si ça vous intéresse, allez vous regarder ça comme une série Netflix. Et à la limite, c'est presque plus comme ça que je l'ai apprécié. Parce que comme il y a ce découpage un peu façon épisodique, prenez-le un épisode après l'autre, faites-en un, faites-en deux, comme vous regarderiez deux épisodes d'une série, et coupez, parce que sinon le rythme va vous achever, quoi.
Ouais, faut jouer une heure par jour, en fait.
Ouais, bah, faut y aller, faut y aller une heure ou deux, et puis
c'est ce que je fais.
Arrêter, y revenir.
Quand tu relances la série, enfin, tu relances le truc, moi j'ai du mal, hein. J'ai du mal à y retourner. Hein.
Ouais, c'est bien vu ça, ouais, c'est un peu un jeu épisodique, il faudrait y jouer comme ça. Ouais.
J'y vais parce que, enfin, tu as envie de t'investir sur le jeu, il demande quand même donc cet investissement, hein, de plusieurs heures, c'est lourd. Hein.
Bon, bah, c'est super, alors comme ça on va pouvoir aller sur le négatif.
Hein,
parce que là, je vois que vous êtes tenté.
On a déjà commencé.
Allons sur le négatif, on a commencé. Alors, moi je note le premier point. Le premier point que moi j'ai noté, c'est les énormes soucis d'immersion. Je m'explique. Et là, Fred sera, je pense, d'accord avec moi. Je vous lâche tout ce que j'ai noté comme problème au sujet de l'immersion. Après, on peut en parler en détail. Mais en termes graphiques, on a eu pendant quelques semaines. Alors, ça a été corrigé avec un patch, mais il y avait le flou cinétique obligatoire. C'est-à-dire que quand tu tournes ta caméra, t'as cette espèce de flou qui s'insinue jusqu'à ce que tu arrives sur ton... Jusqu'à ce que ta caméra s'arrête sur son nouveau point d'arrivée, t'avais ce flou cinétique obligatoire qui filait la gerbe à un nombre...
Moi, je pensais que le problème, il venait de chez moi. En
fait, non, pas du tout. Maintenant, tu peux le désactiver, le flou cinétique, ce que moi, je fais dans tous mes jeux, parce que sinon, ça me...
Le désactives où?
Dans les options graphiques, ouais.
Mais j'ai pris l'option qualité. C'est pas désactivé de suite, ça?
Non, en qualité ou en, peu que tu sois en performance ou en mode qualité, tu dois aller désactiver manuellement le flou cinétique.
D'accord. Il est nommé comme ça. Flou cinétique.
Ou okay. Flou de mouvement, ou je sais plus.
Ça va.
Mais bref, ça a été un problème d'immersion, au début, je trouve. Autre problème d'immersion, les lieux qui sont mis en avant, mais pas visitables. Je pense notamment à Oriflame. Avec cet immense cristal derrière la cité qui en fout une vista incroyable, un panorama tout à fait spectaculaire. Tu vois la cité de loin, tu vois cet immense cristal derrière, t'attends qu'une chose, c'est presque d'y aller, de la visiter.
Ouais, c'est d'y aller, ouais.
Et en fait non, vous allez aller vaguement dans les catacombes faire un truc sous la ville, mais cette ville-là, vous la visiterez jamais, puisque de toute façon, même toutes les autres villes que vous allez visiter, il n'y a pas de vie dedans, c'est pas... Ne vous attendez pas à aller à Lindel ou à aller dans n'importe quelle ville de chez From Software, ça n'arrivera jamais. Et pour moi, c'est un énorme problème parce que ils nous en foutent plein la vue avec des vistas, ça donne envie d'y aller et en fait, on peut pas. En fait, on peut pas. Et la vista, il la casse très vite d'ailleurs parce que le cristal derrière Oriflame qui faisait comme ça un immense panorama super agréable, et ben même lui va se détériorer en un sens. Enfin, je sais pas, c'est pour moi, c'est presque une allégorie de vous la vouliez cette ville, et ben voilà, je vous la casse. Allez, on passe à autre chose. Et Je sais pas, je trouve que c'est un peu...
Le jeu fait beaucoup ça, hein. C'est, on est à un endroit, vite, on va ailleurs, vite, on continue ailleurs.
Oui,
il
n'y
a pas d'exploration, il n'y a pas de...
C'est curieux cette frénésie d'ailleurs de la quête principale parce que...
On n'a pas le temps de s'attacher au monde en fait, on n'a pas le temps de vraiment faire connaissance avec les lieux, on n'a pas le temps, c'est vite, on se dépêche, allez.
Voilà, c'est on y vient, on le voit, on le détruit, on passe à autre chose. Et du coup, tu t'attaches pas du tout au lieu.
Rien n'est fait pour que...
Tu reviens faire des quêtes annexes insipides.
Random, et ça va venir aussi.
Ouais, rien n'est fait pour, profiter de l'endroit que tu visites, où tu prends le temps. Tu as remarqué que dans le monde que tu fais, tu n'as aucune interaction avec les habitations où on pouvait rentrer, visiter.
Et alors, ça, c'est noté aussi dans les problèmes d'immersion, justement, c'est que ces trucs-là, ça te sort du jeu. C'est-à-dire qu'une caisse, en fait, c'est même pas un truc sur lequel vous pouvez grimper. Vous pouvez pas monter sur la moindre caisse, vous pouvez pas faire une roulade sur, j'en sais rien, moi, sur une table. Enfin, des trucs qu'on voit dans le jeu vidéo et qui participent à rendre le monde vivant. C'est-à-dire que les objets autour de vous, ils sont interactifs, vous pouvez faire potentiellement des choses avec, ou au moins, vous pouvez les détruire. Enfin, il y a des formes de collision, il y a un truc qui se passe, quoi, physiquement, dans l'interaction qu'il peut y avoir entre vous et le monde, et là, rien du tout. Avec les PNJ, d'ailleurs, non plus. C'est-à-dire qu'il y a que des plots statiques qui ne racontent rien et qui...
Il y a des murs invisibles à peu près partout.
Il y a des murs invisibles partout. Tu peux pas avoir... Enfin, si, tu peux interagir avec un PNJ qui a une ligne de dialogue, il va te dire un truc, mais sauf que voilà, il est statique. Le traitement des personnages non-joueurs, d'ailleurs, il est assez affligeant parce que graphiquement, c'est pas d'amour pour les PNJ, quoi.
Non.
Ils sont maltraités, les pauvres. Enfin, voilà, moi, ça me sort du jeu, mais complètement. T'es là, tu te dis tout est factice.
Aucune interaction avec le décor, aucune interaction avec le monde, en fait. Déjà, avec le monde en lui-même, on n'est pas...
Ça fait, petit théâtre de marionnettes. Tu as ton héros, t'as des petites marionnettes qui s'agitent autour, t'as un joli fond, t'as un joli décor en arrière-plan, et toi, tu dois juste te mouvoir au milieu des marionnettes et dans cet arrière-plan, et t'es...
C'était quel
les cartes où on évolue sont des couloirs, hein. C'est rien d'extraordinaire à visiter.
Exactement. Tiens, je l'ai noté, le couloir aussi.
On montre des zones semi-ouvertes qu'on explore, mais il n'y a rien à explorer, en fait. Il n'y a rien à voir.
Eh ben, voilà. Eh ben, justement, et là, j'en viens au, donc là, on a parlé des problèmes d'immersion. Et pour moi, on arrive au deuxième problème qui est le problème central du jeu, qui est un problème de rythme. Parce que, comme tu dis, ces couloirs, ils imposent un rythme au jeu et des boucles de gameplay. Alors, la boucle de gameplay, en gros, c'est ce que vous allez faire dans un jeu. Et ce que vous allez faire, en fait, ça se répète. Ça se répète à court, à moyen et à long terme. Et en gros, les boucles dans Final Fantasy XVI, à mon sens, hein, elles sont insupportables. C'est-à-dire que vous avez une boucle de gameplay à long terme. Alors, pour vous la faire courte, la boucle de gameplay à long terme, c'est on va aller détruire un gros truc, et puis on va se poser. Puis on va aller détruire un autre truc. Et on va se poser. Et puis, on va aller encore détruire un autre truc et on va se poser. Ça, c'est la boucle de gameplay à long terme. Quand je dis à long terme, c'est que c'est à peu près ça tous les 5 heures. On a des cycles comme ça de 5 heures qui se répètent. Voilà. À l'intérieur de ces cycles, donc quand vous êtes, par exemple, en train d'aller péter un gros truc, ce qui va se répéter, c'est pareil. C'est un petit chapitrage où vous allez avancer, faire des combats, aller jusqu'à la cinématique suivante, et puis ça va recommencer. Aller, faire des combats, aller jusqu'à la cinématique suivante, avancer, faire des combats, aller jusqu'à la cinématique suivante. Et ça se répète comme ça, inlassablement, c'est la boucle à moyen terme, ça a duré 5 heures. Et la boucle à court terme, c'est les combats, à l'intérieur même des combats, où vous allez enchaîner perpétuellement les mêmes actions qui se répètent beaucoup trop vite. Sans variété, jamais. Et pour moi, ça crée un problème de rythme. En fait, moyen et long terme, il y a un énorme problème de rythme. Il n'y a jamais de variété. T'es jamais surpris ce que tu vas faire, ni dans les 5 minutes qui viennent, ni dans l'heure qui vient, ni dans les 5 heures qui viennent. Le jeu est prévisible, et du coup, il en devient insupportable parce que t'es là à dire, je sais exactement où vous m'amenez. Ah, mais non, mais me refaites pas le coup des 2 heures de pause où je vais aller faire des... Voilà, c'est ça.
C'est une corvée.
Tu le vois venir de tellement loin qu'il te saoule.
Et les quelques rebondissements de scénario sont tellement prévisibles que ça tue complètement l'histoire. Tu vois tout arriver à l'avance. Tu le sais que ça va se passer comme ça.
Et comme je dis, les boucles de gameplay, elles sont tellement matraquées que tu sais exactement quand tu vas avoir ta pause, tu sais quand tu vas avoir ta cinématique, tu sais quand ton sort il va redevenir disponible, t'as l'impression de... Ouais, t'as l'impression de jouer un jeu qui te surprend jamais. Jamais, jamais, jamais. Et... Ouais,
et c'est... comme tu as dit, même les combats en eux-mêmes, le déroulement des combats sont tous les mêmes. C'est...
Ah ouais, non mais si, il y a un combat, tu vas savoir duquel je parle. Enfin, il y a des... allez, OK, les combats de primordiaux, on n'a pas parlé dans les points positifs.
Bon, les combats de boss qui sont jamais.
Les combats de primordiaux sont très 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 réussis et très spectaculaires. Ça c'est vrai. On n'a pas parlé des QTE qui moi me sortent complètement du truc, mais bon, à la
jusqu'à
limite
Bahamut, hein. Jusqu'à Bahamut, moi j'ai vu que c'était le point culminant du jeu.
Ouais, jusqu'à Bahamut, c'est crescendo, c'est vrai, ça en fout plein.
Et après
la,
ça
la figure.
Et après...
après c'est long quoi. Après t'as envie que ça après t'as envie que ça s'arrête.
J'ai envie que ça s'arrête, ça veut dire fous-moi la paix. Et...
Ah ouais. C'est un problème ça.
Ah c'est un gros c'est un problème. Problème. Bah, on est dans les problème. On est dans les problèmes.
Hein. Non mais
là on est jusqu'au cou même.
De penser qu'un jeu c'est un problème de tout. Même pour un jeu indépendant qui où tu fais cette analyse là, tu te dis mais le jeu il a un problème. Et quand tu vois que c'est un triple A avec des moyens conséquents, c'est pas possible d'imaginer ça.
C'est d'autant plus curieux que tout, à peu près tout le monde l'a relevé et pas tout le monde en a tiré les mêmes conclusions,
bah,
tu vois.
Pour moi, il est très simpliste. C'est un RPG de simpliste.
Non, c'est même pas un RPG. En vrai,
d'accord,
on va parler des systèmes après, mais.
Mais le jeu,
il n'y a pas de gestion d'expérience, il n'y a pas de gestion des compétences.
Il n'y a pas de farming sur les armes, il n'y a rien. Tu achètes un truc plus haut, tu le montes deux fois et tu es au max.
Eh ben, justement, pour reparler de ces soucis de rythme, tiens, des animations qui sont manquantes ou des animations qui sont inutiles. Rappelez-vous, les animations de quête, encore une fois, prévisibles et insupportables. Il faut 5 minutes pour prendre un truc. Le truc qu'on te donne, il est hors champ, c'est-à-dire que tu le vois pas à la caméra. Il y a toujours cette phase où on me parle, je dois accepter la quête, je dois me taper le gros bandeau. Je m'énerve, je tape dans le micro. Le gros bandeau qui dit quête acceptée. Et puis je reparle avec le bonhomme. Et puis enfin, je peux sortir de la quête pour pouvoir éventuellement commencer à la faire. Enfin, la lourdeur.
Et puis souvent, la quête, elle est à 50 mètres de toi, quoi. C'est que tu as ta quête, tu marches, tu vas parler à l'autre personnage, tu reviens, tu tues deux monstres.
Comment
c'est
ça
terminé,
s'appelle
quoi.
Quand tu parles à une personne qui prend la pause quand elle te répond?
Ah oui, ça aussi, c'est pause, mais mon Dieu.
J'ai l'impression de revenir à un jeu il y a 20 ans.
Où tu les vois prendre la pause.
La pause comme ça, c'est. Non.
On a un jeu de PS2, quoi. Tu vois.
Ouais, sur les animations de quêtes et de PNJ et tout. Enfin, franchement, c'est pauvre, quoi, ça. Mais moi, ça me sort du jeu, tu vois.
Les quêtes sont ridicules.
C'est entre le problème de rythme et d'immersion, parce que je me dis juste, pourquoi ils font ça?
Ils ont pas eu le budget.
Pourquoi ils t'obligent à appuyer pour valider la quête? Pourquoi juste le fait de parler au bonhomme, ça suffit pas pour l'apprendre? Et après, tu l'as fait ou tu l'as fait pas? Pourquoi on t'impose ce panneau, genre quête acceptée ou combat terminé ou... Enfin, tu vois, ça prend un temps, tu peux pas le zapper. T'es obligé de regarder l'expérience défiler, c'est long.
Comme toute l'interface du jeu qui est lourde, qui est pesante, dès que tu rentres dans les menus, c'est...
Ah, le nombre de fois où je me suis pris à souffler en me disant, mais c'est pas possible.
Les menus sont imbitables, hein, je suis désolé, mais c'est...
C'est pauvre, hein, les menus, hein.
Tu as 5 objets que tu peux utiliser, les potions, super potions, les trucs, les sels, je sais pas quoi.
C'est ça.
Tu as 5 objets.
Sur 3 raccourcis maximum.
Voilà. Tu as 3 raccourcis pour 5 objets. Donc,
Et puis, ils sont limités. Hein.
Heureusement qu'ils ont limité les potions et tout ça, parce que sinon, le jeu. Déjà que le jeu est tellement simple que.
Oui, et puis le. L'interaction que tu as avec le chien, donc où tu peux le faire intervenir sur le combat, mais il apporte rien en fait.
Ah non, il apporte rien.
Non,
même si tu le fais intervenir,
on a mis un chien quoi.
Non, donc moi j'ai abandonné ce truc là, ça t'aide pas.
Non mais tu vois, pareil, il y a des animations en trop justement, tous ces trucs où quand on te donne un objet, ils se sentent obligés de montrer le personnage en contre-champ qui te file l'objet comme ça, il passe la main sous la caméra pour te filer un objet qu'on n'a pas pu modéliser.
On l'a pas vu, exact.
Puis ensuite contre-champ, ça revient vers toi, tu récupères l'objet hop comme si tu le récupérais sous la table.
Tu entends le
bruit. Pour montrer que tu l'as bien récupéré. Ah oui, des fois il y a les fondus au noir avec le type qui est en train de travailler sur ton épée pendant que. Enfin, tous ces trucs là, c'est inutile. Ça participe pas de l'immersion, au contraire, ça t'en sort et t'as envie de dire mais pourquoi vous le faites?
Même sur Monster Hunter, sur PSP, Monster Hunter premier du nom, quand il y avait les chats qui faisaient la tambouille, tu avais une animation.
Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que là, elle sert à quoi l'animation? Juste, il pourrait te dire, tiens, je te donne ça, tac, t'as un petit bandeau quelque part qui te dit objet reçu et tu l'as dans ton inventaire. Point. C'est du jeu vidéo. T'es pas obligé de tout modéliser parce qu'en plus, ça prend du temps et ça te sort du truc. T'as pas envie de ça, quoi, quand t'es joueur. Enfin, je sais pas ce que vous en dites, mais.
Ouais, surtout, c'est soit tu le modélises comme il faut, soit tu le fais pas, mais pas entre les deux, quoi. Voilà.
Mais même pas.
C'est l'un ou l'autre.
Et t'as ce systématisme de, ah oui, là, ça y est, il va me filer l'objet, je suis obligé d'attendre qu'il me l'ait filé sous la table et puis moi, je le récupère et puis. Oh là là, tu vois. Et alors qu'à contrario, il y a des animations qui manquent, tu vois. Et tu peux pas courir. Dans les villes, tu n'as pas de bouton pour courir.
On t'a donné un saut qui sert à rien parce que
tu vois. Voilà, tiens un saut qui dans le monde ne sert à rien. Il va servir un peu en combat, un peu, hein.
Et encore,
mais un peu en combat.
Non, c'est pas naturel. Tu le prends pas. Ils te le mettent sur la démo que ce saut là, c'est ce bouton là. Mais dès que tu t'approches d'un obstacle, le saut n'est pas utilisé puisque
tu peux grimper sur rien. Voilà. Et puis en plus,
en combat ça vient pas, ça t'apporte rien.
J'oublie que le bouton de saut est aussi le même que le bouton pour interagir avec les gens ou avec les objets ou machin, ce qui fait que des fois au lieu de, enfin, tu veux parler à un personnage et tu lui sautes dessus, quoi. Donc,
même les retours haptiques, tu sais, quand.
Bon, en même temps, tu risques pas de le renverser parce qu'il n'a pas de réalité physique dans le jeu.
Oui, de toute façon, c'est un mur. C'est un poteau posé là.
Mais quand tu appuies sur X pour ouvrir un portail, il faut que tu finisses par R2 parce qu'ils ont fait un système de retours haptiques.
Oui, il faut pousser les portes parce que tu comprends le portail.
Alors ça, c'est Sony qui l'a demandé. C'est Sony qui a demandé ce qu'ils utilisent, ce système. C'est des gâchettes.
Oui, mais tu vois que c'est fait un peu vite, quoi.
C'est nul, hein, c'est sûr.
Voilà, oui, mais bon, à la limite, ça c'est pas.
Après, il fait comme Kratos, il ouvre les coffres en mettant un coup de pied dedans, voilà.
Non, mais ça va. Les animations de coffres, tu vois, à un moment donné, j'ai voulu pester, je me suis dit, ok, ça va assez vite. Ça, c'est bien fait. Tu vois, il met un petit coup de pied, tu récupères
c'est
l'objet.
Que Kratos,
quoi. Voilà. Tu vas à autre chose. Ça va. Dans le rythme, je trouve que l'ouverture de coffre, ça va. Même le chocobo, à un moment donné, j'ai voulu pester un peu, mais ça va. Tu appuies sur le bouton et puis ensuite tu le récupères comme un cheval dans un autre jeu. Globalement, ça va. Qu'est-ce qu'il dit, Romain? Je sais pas si on peut le dire qu'apparemment John des fois plutôt que de parler aux, c'est ça, quand il veut parler aux femmes il leur saute dessus, c'est ça qu'il dit, comme
non
tu fais comme Clive, non tu fais pas ça,
non
non il exagère,
je suis à l'approche des femmes, je suis plus un Final Fantasy 7 qu'un Final Fantasy 16,
c'est-à-dire
plus dans le romantisme que dans l'action.
Hein, bah il essaie d'être romantique et c'est pareil.
C'est un poète, hein.
Tiens, il se sort bien.
Mais ça reste un poète.
Il se sort bien des situations périlleuses, hein, tu as vu. Et d'ailleurs, la romance est complètement ratée, hein, aussi. Hein,
complètement.
Ouais, voilà, n'en parlons pas.
La romance du 16, on peut.
Mais tu te rends compte, Fred, ce sont des points forts de la saga qui sont détricotés sur un jeu. À croire que c'est volontaire, parce que là, ce qu'on en dit. C'est pas possible de faire autant d'erreurs. Il me semble que, alors ça c'est mon avis, hein, perso, il vaut ce qu'il vaut. Il y a une opposition de style entre les nouveaux Final Fantasy, qui pour moi, il y a une bascule qui va se faire à partir du prochain, et les remakes qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire.
À la fin du jeu, je sais pas si tu le notes, je l'ai dit à Maxime en rantaine, mais le dernier monstre te le dit, c'est la fin des cristaux, c'est la fin des primordiaux, c'est la fin de la fantaisie,
il
te le dit.
Il dit clairement au héros, ceci est ta dernière fantaisie.
Voilà. Donc, c'est clair.
Oui,
Et à la fin, tu as un bandeau qui apparaît, hors diézège, qui te dit, mais de la fin va naître un nouveau nouveau commencement.
Oui, mais c'est clair que je vois ce que veut dire John. Ce côté, il y a un peu les jeunes incarnés autour de Yoshida qui fait FF14 et FF16.
C'est
un peu contre les anciens, genre Kitase, Nomura et tout ça, et tous ceux qui sont en charge du 7 remake. Et ouais, c'est un peu regrettable.
Alors, on aura la réponse.
À titre personnel, moi je le regrette parce que je trouve que...
Si les ventes du 16 sont satisfaisantes pour la boîte, au-delà des ventes du 7, ça, pour moi, le juge de paix, il va être entre ces deux oppositions.
Je suis pas sûr, parce que le 7, tu parles quand même à un public particulier. Moi, je pense qu'ils vont plutôt regarder par rapport au 15. Le 15 qu'ils avaient poussé en plus derrière comme des malades pour rattraper le coup tellement ça leur avait coûté dessous. Je pense que si 16 fait moins que 15, là peut-être...
Moi, je pense surtout que le 16 a coûté beaucoup moins que le 15. Donc finalement, la rentabilité va être plus vite atteinte.
Mais c'est possible aussi.
Mais si le remake du 7 rentabilise encore mieux, ils vont se dire...
Le 7, oui, il va tout cartonner, c'est sûr.
Oui, mais il y a que ça qui peut-être les feront reculer ou revoir un peu.
Et je sais pas, parce que cette remake, c'était bien vendu, mais sans plus. Hein. Je crois qu'il a dû faire autour des 5 millions, mais il a pas dû faire beaucoup, beaucoup plus, non? Enfin, je suis pas certain. Ouais, tu crois? Je sais pas.
Ouais, faut regarder les chiffres.
Mais le gros du 7 en remake, c'est celui-là.
Non, mais un canonique se vendra toujours mieux qu'un remake, je pense. Que le 16 fera mieux que Rebirth, mais...
Le souci du 7, c'est qu'il est fait en plusieurs épisodes. On sait même pas en combien il va sortir.
Si, en 3, ça a été annoncé.
Ça y est, en 3, confirmé.
Oui, ça a été annoncé.
Donc, c'est un peu trop long. Puisqu'il te faut 2-3 ans entre les deux épisodes.
Bah, moi, je comprends ce rythme-là, mais bon, on en avait déjà parlé, on n'est pas tous d'accord. Bon, restons sur FF16. Problème de remplissage, messieurs, j'ai noté, avant d'aborder le dernier virage. Quête FedEx, hein, les quêtes complètement inutiles, useless. Il y en a 4-5 qui servent à quelque chose. De toute façon, ne vous inquiétez pas, elles sont indiquées. Le symbole de quête, au lieu d'être un point d'exclamation, c'est un petit plus. Et concentrez-vous sur ces quêtes-là, parce que en dehors de ça, sinon vous allez, si vous êtes comme moi, vous allez.
On voit que le monsieur vient d'un RPG en ligne, quoi. D'un MMORPG. Alors, c'est des quêtes de MMORPG.
Oui.
Ouais, mais ça, à la limite, même dans Remake, il les faisait. Donc tu vois, je vais même pas accabler Yoshida là-dessus, mais c'est juste dispensable. Ça ne sert à rien.
Ouais, ça sert à rien.
Ça ne sert à rien. C'est mal mis en scène. C'est mou. Oui, c'est ça. Quête du forgeron, du chocobo, quête du, je sais plus. Il y en a une pour améliorer les potions, je sais plus quoi, de l'herboriste là.
Chocobo, j'avais oublié d'utiliser. Moi, j'avais complètement oublié qu'il était là.
Ah bon.
Bah après, tu fais avec tes cristaux de téléportation.
Tu téléportes
et puis dans le pire des cas, t'as 500 mètres à faire jusqu'à ton objectif, donc dans le pire des cas, tu le fais à pied, et voilà.
Ouais.
Parce que le monde est très très bien déguisé, en fait, on te fait croire que c'est grand, mais c'est...
Ah non.
500 mètres, c'est 30 secondes.
C'est tout petit. Ouais, 500 mètres, c'est 30 secondes, globalement. Il y a un vrai problème de gestion des distances.
Ouais, il y a un problème d'échelle, rien ne va dans ce monde. Ouais.
Gros problème d'échelle. donc, qu'est-ce que j'avais noté? Donc, quête FedEx redondante, qui n'offre pas de récompenses, qui sont globalement inutiles. Le musée, là, de Clive, il récupère plein d'objets. Le jukebox inutile. Le cosmétique, craft inutile. Enfin, voilà.
Le jukebox, ça te coûte une blinde, en plus.
Mais non, mais voilà. Il y a du rempli. Ça, c'est
en même temps, ton argent te sert qu'à ça dans le jeu. Acheter les chansons.
Il y a que ça.
On est d'accord que là, c'est remplir pour remplir. Ça ne sert à rien. C'est pas, à la limite, les autres, genre FF7, par exemple, ou le 8, mettaient des jeux de cartes, mettaient du mini-jeu. C'était pas pour remplir. Il y avait une fonctionnalité de gameplay en plus, ça servait à quelque chose, ça te permettait toi de respirer, de au milieu de ton aventure, de te dédier un peu à autre chose.
De la quête principale.
Oui.
Un jeu où là, que ça soit en quête annexe ou en jeu annexe qui n'a pas lieu. Tu disais les cartes. À un moment donné, si tu voulais sortir de la trame principale, tu pouvais te laisser aller ailleurs.
Oui. Le jukebox, c'est même pas un. C'est juste cosmétique, je sais pas comment, c'est accessoire. C'est juste, jamais de la vie, tu vas te dire, j'arrête ma quête principale pour aller gagner des guilds, pour aller acheter mes morceaux de musique qui coûtent une blinde. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt. Tu vas jamais faire ça.
Ne faites pas ça. Non.
Ne faites même
les quêtes de chasse, ne les faites pas. Hein. Ne faites pas les quêtes de chasse.
Il y en a 3-4 à faire pour crafter ta meilleure arme là, mais.
Ouais, mais ça sert à rien ta meilleure arme de toute façon, parce que de toute façon, tu roules sur le jeu, donc.
Oui, en plus l'upgrade, c'est vrai.
L'upgrade, il sert à rien. Donc,
faire évoluer son équipement, ça ne sert à rien.
Comment il s'appelle le personnage qui apporte des éclaircissements sur l'histoire des mondes, tout ça?
Le Perfora, c'est là.
Ouais.
Mais Balthazar, non, d'un truc comme ça.
Aristocle, machin.
Et puis ton homme 2, ils ont mis la fille qui est après dans la deuxième base.
C'est indigeste. Moi, j'ai essayé de suivre entre les cartes et les trucs.
Ça c'est un point positif, moi je trouve, leur fameux Active Time Lore là, alors le chronographe, je crois qu'ils l'ont appelé en français, quand à tout moment t'appuies sur le pavé tactile, quand il y a une scène cinématique, t'appuies sur le pavé tactile et en fait on te parle de, voilà, si t'es dans la discussion avec quelqu'un qui te parle de telle nation, tel truc et tout, et que toi tu as du mal à remettre les choses dans l'ordre, à tout moment t'appuies sur le pavé tactile.
Mais c'est tellement...
Est-ce que c'est pas un aveu d'échec de ta narration de mettre un outil au joueur pour lui dire, tiens, si t'as oublié quelque chose?
From Software, ils auraient fait la même chose dans les objets, sans te le dire, ce serait plus cryptique, ce serait à toi de tout recomposer. C'est vrai que c'est un peu indigeste, des fois.
Moi, j'ai pris ça pour un échec, tu vois.
Mais tu es tellement pas pris dans l'histoire que... quand
tu t'en fous en fait.
Exactement. Et tu te dis tiens, je vais essayer, mais c'est
non, je trouve que l'outil est une bonne idée. Maintenant, l'outil au service de cette histoire-là, ça, je suis d'accord. C'est
pour moi, pour moi, c'est un aveu d'échec. Tu vois.
Non, pour moi, c'est pas mal parce que c'est une histoire mine de rien complexe qui met en jeu 6 ou 7 nations différentes. Avec,
tu arrives à comprendre les systèmes de flèches quand tu pars d'un personnage, après le personnage il est mort, donc tu le vois en sous-brillance. Et à un moment donné, je m'étais cru dans Risque. Tu sais, le jour, tu sais plus, tu dis qu'est-ce que c'est. Alors, tu essaies de suivre, non?
Alors, le côté lien avec les personnages, là, un peu arbre généalogique en fonction, je l'ai trouvé effectivement un peu oubliable.
Lourd, confus.
Confus. Voilà.
Pour être poli, hein. C'est le terme poli pour.
Par contre, celui avec les cartes, je le trouve très bien fait. Et en général, on va dire, l'option chronographe, je la trouve pas mal parce que ça te permet à tout moment, dans une scène cinématique, voilà, il y a tel personnage qui va prononcer le nom de telle autre personne ou de tel royaume, machin, tu peux à tout moment arrêter en disant, stop, de qui il me parle là? Ah oui, alors tel personnage, c'est machin. Ok, enfin, t'as juste une petite bulle, tu cliques dessus, ça te renseigne sur le personnage dont il est en train de te parler. Idem pour le lieu qu'il vient d'évoquer, si jamais t'y es pas encore allé. Parce que après tout, pourquoi pas, tu vois. Souvent, on te parle d'un territoire où t'es pas encore allé. Ben, Clive, il sait des choses sur ce monde. Et nous, on est supposé jouer Clive. Donc, à la limite, pourquoi pas, tu vois. On nous renseigne comme si on avait le background du personnage qui vit dans ce monde. Donc, après tout, j'ai trouvé l'outil plutôt bien fichu. Mais après, encore une fois,
d'ailleurs,
voilà.
D'ailleurs, est-ce qu'il meurt à la fin?
Tu veux est-ce aller jusqu'à vous, ce niveau de spoil, là?
Bah, je sais pas, le jeu est sorti il y a 2 mois déjà. Hein.
Bon, ok, je pense que oui.
Spoil alert.
Moi, je pense que oui, parce que. Non, hein. Et ça va rejoindre le dernier point. Moi, je pense que oui.
Je pense qu'il meurt pas, moi, non.
Ah, moi, bon, je pense qu'il meurt pas. Parce que moi, je pense que c'est du racolage, je vais m'expliquer là-dessus. Ce qu'ils ont fait, en fait, c'est du racolage, du fan service, et c'est déjà ce que les joueurs de FF14 un peu, je dis pas un peu sincère ou un peu honnête, mais ça avait été dit au sujet d'FF14, Yoshida, il sait faire que du plagiat, il sait pas inventer grand chose, et il pompe tout des anciens jeux. Et pour moi, cette fin, c'est un peu pompé du 15 et un peu vaguement du 10. Tu vois, le côté un peu Roméo et Juliette, l'histoire impossible, je trouve
que... Dans le 10, il meurt pas, parce qu'il revient après. Il est ressuscité, tu vois.
Ouais, non, mais le 10, si tu t'arrêtes au 10, la fin est parfaite comme elle est, pour moi, il fait la fin du 10, et un peu la fin du 15 aussi, avec le sacrifice de Noctis, enfin bref. Mais voilà. Mais
moi, je pense qu'il ressuscite, moi, tu vois. Il y a un côté un peu christique dans le personnage, tu vois.
Peut-être.
Et je pense. En plus, il a à peu près une trentaine d'années, tu vois, un peu comme le Christ.
Après tout, pourquoi pas? Fin ouverte. Ouais. Non, je conteste pas. Mais si tu veux,
Et puis le chien à la fin, il a l'air content, donc il sent que son maître est vivant. Moi, je le vois comme ça.
Ah, il est vivant dans les étoiles, peut-être.
Ouais, c'est le chien. Ah, peut-être, ouais. Là, ça va trop loin.
Non, mais voilà. Moi, je trouve qu'à chaque fois qu'il y a une inspiration, alors on peut parler des inspirations strictement Final Fantasy, mais à chaque fois qu'il y a des inspirations dans ce jeu, elles se voient trop. Elles sont sans surprise, c'est lourd, c'est tout est trop lourd, tout est trop lourd.
Pas de subtilité, c'est pas fin.
En fait, vous jouez Jon Snow parce que comme Jon Snow, vous venez d'un territoire de gentils.
Ils ont fait le mur de glace de la garde de nuit.
Ils ont fait la garde de nuit aussi, hein. T'inquiète pas, dans le nord là où il y a plus personne qui habite. Ils ont fait Jon Snow, ils ont fait parce que c'est Clive avec son chien, parce que Jon Snow aussi il a un loup. Alors lui c'est un loup ou un chien, je sais plus.
C'est un loup, je crois. On l'appelle le chien, mais je crois que c'est un loup. Hein,
je sais plus. Ouais, ben voilà, ben Jon Snow c'est un loup aussi.
Alors regarde le physique de Clive, il est très ressemblant.
Mais oui, son père se fait couper la tête comme Ned Stark à la fin du premier chapitre, voilà. Il doit protéger un petit frère qui a des pouvoirs un peu façon Jon Snow. Qui protège sa petite sœur Brandon, la corneille à trois yeux. La femme, c'est vaguement le rôle de Cersei qui est tout prête à tout pour protéger son enfant. Mais alors Cersei, elle était prête à tout pour protéger tous ses enfants. Alors là, non, il y en a qu'un qui compte pour elle, c'est celui du trône. Et du coup, on interprète très mal la propre influence. Enfin bon, bref, Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Bah, toujours pareil, oui, la fameuse fausse Cersei qui épouse l'équivalent de Baratheon. Baratheon qui a un fils homosexuel, je crois, comme c'était le cas dans la série. Alors là, il s'appelle Dion et dans la série, il s'appelait je sais plus comment. Enfin bref, c'est toujours lourdingue.
Il n'y a pas de nain. Tu vois, moi, je cherchais le nain.
Il manque la personne de petite taille, effectivement. Mais voilà. Sinon, ils sont tous là, quoi.
Ouais.
Et en fait, c'est que quand il s'écarte, à la limite de ses influences Game of Thrones, qui devient un Final Fantasy, comme on les connaît. Et c'est là qu'il va pêcher dans tous les lieux communs de tout ce qui a déjà été fait. Parce que voilà, les cristaux, et ben, alors bon, déjà les cristaux, ils sont repris, mais ça, à la limite, pourquoi pas. Il y a plein de Final Fantasy qui le font.
Ouais.
Sauf que là, ils sont traités comme une source d'énergie qu'il faut détruire. Ça vous dit rien, ça? Ça vous dit pas
La Mako.
Ça vous dit pas la Mako, les réacteurs Mako du 7?
Les réacteurs du 7, ouais.
Voilà. Et puis le monde d'avant et le monde d'après, ça vous dit rien, ça aussi? Quand t'avances après Bahamut et qu'ils décident de faire tomber un voile sur le monde, un peu façon FF6, hein,
le monde
de la balance plus suivi du monde des ruines. Après, qu'est-ce qu'on avait? FF8, la musique, je vous le ferai écouter tout à l'heure.
En plus, c'est mal amené, on fait croire que le monde est au bord de la destruction, mais c'est mal fait.
Mais tu as le temps d'aller promener Talgor, d'aller cueillir de la courge pour Madame je sais pas quoi.
Ça, c'est très Final Fantasy, par contre, c'est très Final Fantasy, ça.
Ah, et cette quête du pont, vous avez dû la faire tous les deux? Alors, rappelez-vous, on a un sceau qui ne sert à rien. Sauf que Clive, il est l'héritier du phénix. Donc, pas peu de choses près, il peut voler, enfin, il peut se projeter de 50 mètres en avant, faire des bombes pas possibles et tout. Et à un moment donné, il y a un pont qui est un peu cassé, mais il est cassé juste à moitié. Donc, en fait, on pourrait passer sur le côté droit du pont.
Mais on peut pas passer,
même si on fait des bonds de 50 mètres. Il faut aller chercher le forgeron ou le charpentier, le pauvre, qui se fait attaquer par trois crabes et tout, c'est lunaire. Ça te sort du jeu, mais tu dis, mais non, c'est pas possible, votre histoire. Ouais. Ça existe pas.
Et t'as même pas la satisfaction de la musique de fin de combat à tous les combats.
La fanfare, la célèbre fanfare de Final Fantasy. Hein.
Je trouve qu'elle est super réussie en plus. Même sur certains boss, elle y est pas tout le temps. Alors je sais pas si ça vient de moi ou si c'est général sur vous aussi.
Non, elle y est pas tout le temps. Non. Mais heureusement, parce qu'à chaque fois qu'elle y est, c'est qu'il te met le bandeau. Vous avez vaincu tel ennemi, machin, machin.
Tu ne l'as même pas sur tous les gros combats.
Non.
C'est la marque de fabrique. N'importe quel gamer, il reconnaît ça. Hein.
Bon, on finit avec ça avant de faire le dernier volet. Alors, le dernier volet, on le fera entre nous, messieurs. Enfin, on le gardera pour le podcast. Mais là, j'interromprai juste pour la bande de radio. De FF9, il récupère l'univers. Il récupère l'intrigue aussi liée aux différents univers. Je sais pas si vous vous rappelez de la fin de FF9, là, avec les deux planètes d'où venait Jidane, machin, qui devaient fusionner.
Avec Jidane.
Ouais.
Je me rappelle plus.
Bon voilà, du 10 il récupère.
La fin du 9 est très bien d'ailleurs parce que.
Oui, mais sauf que là du coup on l'a déjà vu cette histoire de je veux ta planète pour moi ou.
Puis finalement à la fin du 9 on se rend compte qu'on pourra pas changer le destin, ça va, les deux planètes vont s'écraser l'une sur l'autre.
Oui, alors que là ben non, là c'est.
Happy end.
Bref, d'FF10 pour moi il récupère un peu la fin, il récupère la condamnation sur la foi, il récupère le design aussi des fameux couloirs qui étaient quand même bien meilleurs, ceux du 10 que ceux du 16. Du 13 aussi.
Du 13 aussi finalement, ouais, au moins ils assumaient, tu vois.
Ouais, du 13 ils récupèrent la structure et du 12 ils récupèrent aussi tout l'univers Valistea qui est un peu le Ivalice du 12. Enfin voilà. Pour moi, même, il récupère aussi la relation Joshua, il le récupère de The Last of Us, ou il le récupère de, tu sais, le début, quand il te fait jouer Joshua, qui va soi-disant mourir, on dirait que le début de The Last of Us avec, comment elle s'appelait,
avec la fille du héros, là.
Comment elle s'appelait, la fille du héros, au début de The Last of Us, John? Là, allez, la fille de, pas Ellie, hein, du coup, Sarah.
Voilà.
Sarah.
Donc là, on te fait jouer Sarah. Bon, Sarah, elle s'appelle Joshua, mais c'est la même chose, quoi. On te le fait jouer pour que tu t'attaches, et puis voilà. Et puis la relation frère, ça fait penser un peu à la relation entre Atreus et Kratos. Enfin,
sauf
bref,
que Sarah meurt, lui, il meurt pas.
Sauf que lui, il meurt pas. Parce
mais tu peux t'inspirer.
Même pas la décence de mourir, quoi.
De tout ça, c'est pas. Tous les jeux s'inspirent de quelque chose.
C'est grossier. Oui, ça se voit tout le temps.
Mais c'est même pas du Final Fantasy. Il s'inspire de tout sauf du Final Fantasy.
Il y a des combats à la God of War, de PS3, il y a des combats de boss, avec des QTE, enfin c'est... Ça fait dater, quoi. Ça fait dater.
Pour moi, il y a trois moments il y a deux, trois moments, voilà, contre les primordiaux qui ont réussi à me surprendre. Le fameux runner, là, contre Titan. Mais bon, il paraît qu'il y a aussi plein de plagiat. Ou un hommage, après, appelez-le comme vous voulez, mais des fois, c'est tellement grossier et tellement facile que, bon, on se dit, c'est plus du... Ah oui, ça spoil sévère. Ah bah oui, hein, c'est qui ? C'est Amazon Emma qui nous dit ça. Ouais, ça spoil grave, hein. Là, on s'en fout, c'est sorti il y a deux mois.
Ah, on a plus rien à cirer, hein, ça va.
On a plus rien à cirer de ce jeu. on s'en fiche.
Bah, on aurait pu le dire. Ouais.
Non, et puis moi, je suis partisan, alors j'avoue, mais alors là, je veux bien reconnaître que je suis plus partisan de, on se fiche de connaître l'intrigue. À mon avis, faut vivre la chose pour pouvoir savoir exactement ce qu'on en ressent. Donc, c'est pas très, très grave si, si on
a pris la peine de le finir pour vous en parler quand même.
Oui, voilà, quand même.
Ouais, on a souffert.
Je reconnais que moi, j'ai vraiment souffert sur les dix dernières heures. Ouais. C'était
une corvée.
C'était une corvée. Je l'ai un peu fait comme on va au boulot des fois, tu sais. Enfin, tu vois ce truc-là de, allez, on y retourne.
Ouais, au boulot. C'était exactement ça. Ouais. C'est-à-dire.
Donc bon. Ouais. Pas si inspiré que ça, finalement. Et on va donc attaquer notre dernière partie. Alors, je le dis, pour ceux qui veulent nous retrouver en podcast, voilà, on met un terme à notre émission qui sera diffusée en radio. Donc là, ce sera la fin de la partie radio. On va remercier tous les auditeurs de RCC. Messieurs, je vous convie à le faire avec moi.
Merci les auditeurs de RCC.
Merci, parce que là, même moi, je me suis remercié pour faire le jeu.
Merci de subir ça.
Non, mais parce qu'on a aussi un devoir de conseil vis-à-vis de ceux qui... Voilà, donc vous
pouvez... Finalement, qu'est-ce qu'on fait ? On le conseille ou pas le jeu ?
Non.
Moi, non.
Alors, après, ça reste un jeu vidéo, ça reste un média...
C'est très joli.
Un loisir. Ceux qui veulent se lancer dans l'aventure comme un jeu basique, allez-y.
Si vous avez 40 heures à perdre, allez-y.
C'est très joli, c'est pas nul. Parfois, ça brille de mille feux, mais...
Ah, pour ceux qui veulent avoir les yeux flattés...
C'est un peu un film Marvel, finalement, tu vois.
Ouais.
Moi, je l'ai pris... À la fin, je pensais à ça. Je me dis, tiens, c'est spectaculaire.
Mais non, parce que... Mais Marvel, il a...
L'histoire est nulle. Et à la fin,
les films Marvel sont beaucoup mieux rythmés. C'est-à-dire que là, malheureusement,
oui, c'est vrai,
les temps morts et les temps faibles sont d'une faiblesse abyssale.
Le jeu Marvel qui avait floppé, c'était Square qui avait fait aussi.
Avenger.
Hein. Donc Square, il se plante avec Forspoken.
Avec beaucoup de choses.
Ils sont en train de.
Bon, les amis, on met un terme, on fait coucou à la radio, on les remercie, merci beaucoup aux auditeurs de RCC, merci la radio.
Merci la radio.
Et vous nous retrouvez, voilà, si vous voulez la suite du podcast, la suite et la fin, parce qu'on va continuer à parler encore un petit peu de ce FF16, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de stream audio et également sur Twitch ou sur YouTube en replay. Ciao, ciao, ciao les auditeurs d'RCC. Ciao.